Bonjour, soyez les bienvenus. Et pour le sommaire du jour, parole d'abord à Philippe Claudel, secrétaire général de l'Académie Goncourt.
Donc le Goncourt 2021 a été attribué au premier tour par 6 voix à Mohamed Mbogar Sarr pour son roman publié aux éditions Philippe Ray, Jim Sack, La plus secrète mémoire des hommes.
Un écrivain sénégalais remporte le Goncourt. Quant au Renaudot, c'est Amélie Nothomb qui le décroche pour premier sang chez Albin Michel. Nous allons à Drouan dans un instant. Et puis à 13h45, c'est une chanson, le Goncourt 2020, Hervé Le Tellier avec Frédéric Pommier. Il choisit Léonard Cohen. Et puis la page culture de ce mercredi, ce sera aussi la chronique cinéma de Corinne Pellissier. Le Covid en France, reprise modérée, inquiétude modérée, hausse des hospitalisations de 7% en une semaine. Plus forte inquiétude en Allemagne, pandémie massive de non-vaccinés, dit le ministre de la santé, les lits en soins intensifs commencent de nouveau à manquer. Joe Biden, la mauvaise passe continue, les démocrates perdent une élection locale importante en Virginie. Le vote s'est notamment joué sur l'enseignement critique de la théorie de la race à l'école. Nous verrons de quoi il s'agit. Dans l'actualité encore, les écarts de salaire hommes-femmes, 16,5%. Comment le réduire? Les propositions des candidats à l'Élysée. Quand un quartier dit sensible se mobilise pour son commissaire de police, ça se passe au Tarteret à Corbeil-Essonne. Le conflit au Tigre en Éthiopie, brutalité extrême, dénonce l'ONU. À 13h30, le marché parallèle du tabac, ventes à la frontière et contrebande, il représente aujourd'hui 15% de la consommation en France. Comment limiter ce marché? On en parle avec nos invités. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour vos questions. Et puis tchuss, Angela, c'est en Bourgogne, son patrimoine et ses vins qu'Emmanuel Macron reçoit une dernière fois la chancelière avant son départ. La Bourgogne dans l'histoire de France, ce sera le vif de l'histoire de Jean Lebrun. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
L'année dernière, à cause du Covid, c'est en visio que les prix Goncourt et Renaudot avaient été proclamés. Cette année, on retrouve les bonnes habitudes. La première semaine de novembre, la cohue au restaurant Drouan dans le centre de Paris. Et Ilana Mourioussef en direct avec nous. Bonjour Ilana.
Bonjour.
Le Goncourt revient donc cette année à l'auteur sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour La plus secrète mémoire des hommes. C'est aux éditions Philippe Ray.
Oui, et c'est un événement historique. Bruno a plus d'un titre. D'abord, c'est le premier auteur francophone originaire d'Afrique subsaharienne à recevoir le prix Goncourt. C'est le plus jeune des lauréats du Goncourt. Il a à peine 31 ans. Il est publié par une maison d'édition indépendante de petite taille. Ça n'était pas arrivé depuis 37 ans. Et en fait, il est même coédité. C'est-à-dire qu'il a un éditeur français, Philippe Ray, et il a un éditeur sénégalais, Jean Sam, et cette maison d'édition sénégalaise est dirigée par quelqu'un qu'on connaît assez bien en France, puisqu'il s'agit de Felwine Sarr. Oui. Et pour ceux qui ont suivi cette question, eh bien, c'est l'universitaire qui a co-rédigé le rapport sur la restitution des œuvres d'art à l'Afrique. Donc, vous voyez, il y a une façon ici qui revient un peu à boucler la boucle. Alors, Mbougar Sarr, c'est son quatrième oui. roman. Il a déjà écrit sur le djihadisme, sur les migrants, sur l'homosexualité au Sénégal. Et dans ce roman, La plus secrète mémoire des hommes, eh bien, il raconte l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais qui vit à Paris et qui se lance sur les traces d'un auteur africain surnommé le Rimbaud Nègre, auteur d'un seul livre paru en 1938, livre acclamé, puis dénoncé pour plagiat. Voilà, c'est l'histoire d'une quête littéraire qui a mène le personnage à se confronter à la question de l'exil, à l'écriture, au colonialisme et aussi à la question de l'identité africaine.
Et c'est donc un très jeune auteur, 31 ans, vous nous le disiez, qui remporte le Goncourt cette année. Du classique pour le Renaudot, Ilana Mourioussef, Amélie Nothomb pour premier sang chez Albin Michel évidemment.
Oui, alors ça, c'était beaucoup plus attendu. Ça fait longtemps que Amélie Nothomb attendait non pas la reconnaissance du public, qu'elle l'a déjà très largement, mais la reconnaissance d'un grand prix d'automne. Premier sang a été unanimement salué parce que, eh bien, on le dit très très réussi. Et c'est l'histoire, enfin c'est l'autobiographie de son père en quelque sorte. Son père qui était diplomate, issu de la haute société belge et qui est mort l'an dernier, au tout début de la pandémie, mais il n'est pas mort du Covid.
Ilana Mourioussef en direct de Drouan. J'ajoute que vous trouvez tous les détails sur ces prix sur franceinter.fr. Et le Renaudot de l'essai est décerné au livre Dans ma rue. Il y avait trois boutiques, c'est aux presses de la Cité. Et c'est signé Anthony Palou. Nous entendrons peut-être, j'espère, Mohamed Mbougar Sarr dans les minutes à venir dans ce journal de 13h. Le Covid, le nombre de patients hospitalisés a augmenté de 7% en une semaine, ceux en soins critiques de 4% à l'approche de la fin des vacances de la Toussaint. Il y a bien une petite recrudescence de l'épidémie, y compris à l'hôpital. Le taux d'incidence est repassé au-dessus des 50, le premier seuil d'alerte dans plus de la moitié des départements. Cela dit, Alice Cachaner, la France est pour l'instant moins touchée que la plupart de ses voisins européens.
Là où on dépiste environ 5800 cas positifs quotidiens en France, ce chiffre monte à 9600 en Allemagne et des pics à 50 000 ont été enregistrés au Royaume-Uni. Ça flambe aussi du côté des Pays-Bas où le Premier ministre a annoncé hier la mise en place de nouvelles restrictions comme le pass sanitaire dans les restaurants et les musées. Et dans les pays d'Europe de l'Est, en Bulgarie, en Roumanie, les hôpitaux sont débordés. Une épidémie qui grignote du terrain plus rapidement que chez nous, notamment parce que la France a maintenu les gestes barrières pendant l'été. Explique l'épidémiologiste Mircea Sofonea.
Les autres pays, en particulier le Royaume-Uni, ont relâché leurs gestes barrières, se retrouvent à avoir une dynamique à la hausse. Donc c'est vrai pour les pays nordiques, c'est vrai pour les pays d'Europe de l'Est parce que ils ont une moindre couverture vaccinale. Et donc la France, si vous voulez, arrive après ce redémarrage chez ses voisins européens. Mais malheureusement, la situation reste la même et elle était prévisible, c'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité, avec les vaccins actuels, d'atteindre l'immunité collective par la seule vaccination.
Parce que le variant Delta est particulièrement contagieux, mais aussi parce que l'efficacité du vaccin tend à s'émousser avec les mois. Aujourd'hui, seule la moitié du public concerné a reçu sa dose de rappel.
Et l'inquiétude monte en Allemagne. Nous sommes confrontés à une pandémie essentiellement des non-vaccinés. Elle est massive, dit le ministre de la Santé. Il appelle au durcissement des mesures anti-Covid alors que les lits en soins intensifs commencent de nouveau à manquer. Aux États-Unis, la vaccination des enfants 5-11 ans a commencé ces dernières heures. La campagne a été lancée dans l'hôpital d'Hartford, dans le Connecticut, tout près de New York. Deux injections de Pfizer à 3 semaines d'écart pour les enfants, mais la dose dans la seringue est réduite à 10 microgrammes contre 30 pour les adultes. En Europe, c'est mi-décembre que l'Agence européenne des médicaments donnera son avis sur la vaccination des enfants. Pour le professeur Eric Combe à la Pitié-Salpêtrière à Paris, on manque encore de recul sur les effets indésirables du vaccin chez les plus petits. En revanche, il appelle les personnes à risque à subir la troisième injection. On le rappelle, les plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies graves, comorbidités, ainsi que les résidents en EHPAD et personnel soignant. L'écart de salaire entre hommes et femmes est de 16,5% cette année en France contre 15,5% l'année dernière. Cet écart a donc augmenté. Le collectif des Glorieuses en tire cette conclusion sous forme de slogan. C'est comme si aujourd'hui, depuis 9h22, les femmes travaillaient gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Et ce collectif fait une série de propositions pour changer les choses. Que l'accès des entreprises aux subventions et marchés publics soit conditionné à des progrès dans ce domaine. Que les salaires des emplois où les femmes sont majoritaires soit revalorisé, que le congé paternité dure aussi longtemps que le congé maternité. Que proposent de leur côté les candidats à la présidentielle pour réduire cet écart de salaire entre femmes et hommes? Tour d'horizon avec vous, Laurence Perron. Premier tour d'horizon, première série avec vous.
À gauche, le sujet est un marqueur. François Hollande, président, en août 2014, tient d'ailleurs l'une de ses promesses de campagne avec une loi pour l'égalité réelle qui propose des sanctions pour les entreprises ne respectant pas l'égalité salariale. Les associations féministes regrettent toutefois que le cas des travailleuses précaires ou en temps partiel subi n'ait pas été traité. Aujourd'hui, Anne Hidalgo, ancienne inspectrice du travail, entend muscler le dispositif et cela passe, selon elle, par une revalorisation conséquente des salaires. Jean-Luc Mélenchon veut obliger les entreprises à s'engager à réduire les inégalités en étendant le dispositif à toutes les entreprises et pas seulement celles de plus de 50 salariés avec de fortes sanctions financières à la clé. L'écologiste Yannick Jadot reprend à son compte les propositions de l'écoféministe Sandrine Rousseau qui est sur une ligne tout aussi intransigeante que celle de la France insoumise.
Laurence à droite, pour l'instant, on prend le sujet de biais.
Effectivement, Valérie Pécresse, tout comme Xavier Bertrand, répondent plus volontiers place de crèche, défiscalisation des pensions alimentaires, sans prôner de mesures très coercitives pour les employeurs. Marine Le Pen est revenue sur son idée de salaire pour les femmes au foyer en 2012 qui avait été très contestée. Elle défend désormais l'égalité salariale, sans préciser davantage les moyens pour y accéder. Quant à la Macronie, son candidat en 2017 envisageait des testings du name and shame, mise au ban public pour les entreprises récalcitrantes. Force est de constater que leur mise au ban est restée plutôt discrète, même si Elisabeth Moreno, sa ministre chargée du dossier, est prête à sortir des tiroirs des dispositifs innovants. Cela fait partie de ses combats prioritaires. Il reste toutefois assez peu de temps.
Réduire les inégalités de salaire entre femmes et hommes, les mesures qui marchent, celles qui ne marchent pas, c'est à lire sur franceinter.fr. Là aussi, la question des salaires est en cause parmi d'autres raisons. Les stations de ski peinent à recruter des saisonniers sur les pistes, mais aussi dans les restaurants ou magasins. Manque 30 à 40% de main-d'œuvre pour l'instant. Il a perdu des points de popularité. Il a perdu de sa réputation internationale après le retrait d'Afghanistan. Voilà maintenant que Joe Biden perd une élection locale importante, celle du gouverneur de Virginie, dans cet État qui avait massivement voté pour lui il y a un an et qui était dirigé par les démocrates depuis 8 ans. Eh bien, c'est le candidat républicain qui l'emporte, Glenn Youngkin, homme d'affaires de 54 ans, pas d'expérience politique, soutien de Donald Trump, mais il ne reprend pas ses propositions les plus radicales. Un détail attire l'attention, il a fait notamment campagne contre l'enseignement de la théorie critique de la race aux élèves américains. De quoi parle-t-on, Clémence Pénard ?
Eh bien, c'est un enseignement dans les établissements scolaires aux États-Unis que Glenn Youngkin combat farouchement. Ce courant de pensée analyse le racisme comme un système plutôt qu'au niveau des préjugés individuels. Un sujet qui divise aux États-Unis. Pour les conservateurs, les adeptes de cette théorie veulent tout simplement réécrire l'histoire. Et c'est dans ce contexte tendu que Youngkin a profité d'un commentaire jugé maladroit de son adversaire démocrate. Lors d'un débat télévisé en septembre, Terry McAuliffe estime qu'il n'appartient pas aux parents de dire aux écoles ce qu'elles doivent enseigner ou non. Patatras, Youngkin rebondit et prend bien évidemment le contre-pied de cette déclaration. Bientôt, il martèle un seul et même message, les parents doivent avoir une influence sur les programmes scolaires de leurs enfants. Glenn Youngkin devient alors le candidat des parents. Une stratégie gagnante puisque c'est ainsi qu'il a véritablement coulé son rival, dont la large avance a fondu en à peine quelques semaines.
Et si les démocrates perdent la Virginie, ils conservent un bastion, la mairie de New York. La ville sera dirigée pour la deuxième fois de son histoire par un homme noir, Eric Adams. Le débat politique aux États-Unis tient aussi dans les heures à venir devant la Cour suprême, qui pourrait libéraliser un peu plus la circulation des armes aux USA. En Europe, le Conseil de l'Europe a fâché beaucoup de monde en France avec une campagne sur les réseaux sociaux où elle célèbre la diversité et la beauté dans le hijab, le voile islamique qui couvre la tête et laisse voir le visage. Photo partagée en deux de femmes. Sur une moitié, elles ont la tête découverte. Sur l'autre, elles sont voilées. Le voile n'est pas un symbole de liberté, mais de soumission, dit par exemple la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse. L'extrême droite, mais aussi les militants de la laïcité à gauche, montent au créneau eux aussi. Et le gouvernement français également, qui a même obtenu le retrait de cette campagne, Raphaël Delvolvé.
Oui, ce matin, la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, s'en félicite. Après avoir été profondément choquée par cette campagne, une probable maladresse du Conseil de l'Europe, tempère-t-elle. Alors le Conseil de l'Europe, organisation de défense des droits humains, se défend, explique que ces vidéos ne reflétaient pas sa position, mais des déclarations de participants à certains ateliers de ce projet sur la lutte contre les discriminations, sans donner plus de détails. Le gouvernement compte les obtenir. Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche.
Il faut savoir concrètement pourquoi cette campagne a été financé, qui l'a initié, qui en sont les instigateurs, être extrêmement vigilant sur en effet les ONG qui sont financées par des fonds européens et donc par les fonds de nos concitoyens.
À l'origine de la campagne, la branche anti-discrimination du Conseil de l'Europe, dont le compte Twitter relaie parfois des lobbies islamiques aux messages très politiques. Une connivence, un phénomène que dénonce depuis longtemps l'eurodéputé de droite, François-Xavier Bellamy.
J'ai relayé déjà à plusieurs reprises les alertes de chercheurs, d'universitaires qui observent et qui dénoncent cette stratégie d'entrisme de la part de toute une nébuleuse qui, sous couvert de lutte contre l'islamophobie, est en train de banaliser les normes islamiques qui pèsent en particulier sur les femmes.
François-Xavier Bellamy qui réclame une enquête au Parlement européen. Cette campagne a également choqué à gauche, notamment la sénatrice et ancienne ministre Laurence Rossignol. Elle nous dit cependant aujourd'hui ne pas vouloir remettre une pièce dans la machine identitaire.
Et en Europe, en zone euro précisément, le chômage continue de reculer. 7,4% en septembre contre 8,6% un an plus tôt. C'est en République tchèque que le taux est le plus faible, 2,6% de chômage. En Espagne qu'il est le plus 14,6. La France est à 7,7. Le nord de l'Europe, Glasgow, Écosse, est un peu le centre du monde en ce moment. C'est là que se tient la conférence climat troisième journée. Et dans ce contexte, le gouvernement présente cet après-midi son plan pour développer l'énergie photovoltaïque en France. Le solaire, aujourd'hui, cette énergie représente 2% de la production d'électricité contre 7% pour l'éolien, 67% pour le nucléaire. La ministre Barbara Pompili veut multiplier par 3 avant 2030 les installations et par 7 d'ici à 2050. Avec quelles mesures, Célia Quiret ?
Oui, la France est en retard sur le solaire. Alors la ministre de la Transition écologique cherche des terrains sans bétonner davantage. Elle pense notamment aux friches des anciennes usines désaffectées sur lesquelles on peut mettre des panneaux. Selon une étude de l'ADEME, le potentiel est important. 8 gigawatts, à peu près 8 réacteurs nucléaires. Barbara Pompili était l'invitée de France Info ce matin.
Ce que je veux, c'est qu'on développe le photovoltaïque. Aujourd'hui, on est à 12 gigawatts. On a besoin, d'ici 2028, de multiplier par 3 les installations. Pour cela, on a déjà commencé, dans la loi Climat Résilience notamment, à obliger, quand il y a des nouveaux bâtiments, des hangars, des bâtiments industriels, à mettre du photovoltaïque sur les toits dès lors qu'il dépasse une certaine surface. On va le faire aussi maintenant sur les friches, qui aujourd'hui ne servent à rien. On peut avoir 1000 projets d'ici 2025, c'est un petit clin d'œil, un petit symbole, mais c'est vraiment pour dire qu'on va accélérer.
Et ces 1000 projets concernent des terrains publics. Des panneaux solaires pourront également être installés sur des aires d'autoroute. Le gouvernement veut enfin simplifier les procédures. Il n'y aura plus besoin, par exemple, d'évaluation environnementale pour installer des panneaux solaires sur certains bâtiments ou sur les toits des parkings. Plus besoin non plus de permis de construire pour les petits projets. La France investit 6 milliards d'euros par an pour les renouvelables. Ce montant devrait augmenter dans les prochaines années. Et la France n'a pas le choix. D'après les scénarios du gestionnaire de transport d'électricité RTE, en 2050, au minimum, la moitié de l'électricité sera produite par des renouvelables.
L'information judiciaire se poursuit. Le recours d'Éric Dupond-Moretti pour faire annuler sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt est rejeté. Il est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de ministre de la Justice pour intervenir dans des dossiers dans lesquels il intervenait auparavant comme avocat. Dans un pays dirigé par un prix Nobel de la paix, se déroule un conflit d'une brutalité extrême avec de possibles crimes contre l'humanité commis par toutes les parties en conflit. C'est la conclusion d'une enquête menée par l'ONU et une commission de défense des droits de l'homme en Éthiopie. C'est là, en Afrique de l'Est, que cela se passe. Guerre entre le gouvernement central et des combattants dissidents dans la région du Tigré. Valérie Crova, le rapport fait état d'attaques aveugles contre les civils, d'exécutions extrajudiciaires, de violences sexuelles et d'un recours systématique à la torture.
Un rapport dévastateur, c'est ainsi que la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a présenté les conclusions du travail d'enquête réalisé en coopération avec la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Et Michel Bachelet dégrainait les multiples violations qui ont été recensées à partir des témoignages de plus de 260 victimes et témoins. L'équipe d'enquête conjointe a découvert de nombreuses violations et abus, dont des homicides et des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des violences sexuelles et fondées sur le genre, des violations contre des réfugiés et des déplacements forcés de civils. La majorité des violations documentées entre novembre 2020 et juin 2021 semblent avoir été commises par les forces éthiopiennes et érythréennes. Depuis, nous avons vu un nombre croissant d'allégations de violations des droits humains commises par les forces tigréennes. Le rapport dénonce également des massacres qui ont coûté la vie à des centaines de civils. Il demande aux parties en conflit de mettre fin aux hostilités et de rechercher un cessez-le-feu durable pour protéger la population. Il évoque enfin la possibilité de créer un mécanisme d'enquête internationale indépendant pour poursuivre pénalement les auteurs de ces crimes qui peuvent s'apparenter à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité.
L'orage est durable entre France et Australie, près de 2 mois après l'annulation du contrat des sous-marins. Chacun remet une pièce dans la machine. Hier, fait rarissime, la presse australienne a publié un SMS d'Emmanuel Macron au Premier ministre australien quelques jours avant la rupture, pour laisser entendre que le président pressentait cette issue, contrairement à ce qu'il dit. Méthode très inélégante, dénonce l'entourage du chef de l'État. Ce matin, c'est l'ambassadeur de France en Australie qui emploie à nouveau des mots durs à propos de la dénonciation du contrat.
Avec le transfert complet de capacités militaires aussi hautement sensibles, l'Australie allait gagner un contrôle souverain total de l'un de ses outils vitaux de défense. C'est un coup de poignard dans le dos. Le gouvernement australien prend ses propres décisions en matière de sécurité nationale. Le président Macron l'a redit très clairement. Mais la manière dont le gouvernement australien a tourné le dos à un partenariat aussi sérieux, d'une telle importance, sans jamais avoir réellement consulté la France, alors qu'il y a eu d'innombrables occasions pour le faire, sans avoir partagé franchement et ouvertement ses réflexions et sans avoir examiné des alternatives avec la France, est tout simplement insensé.
Jean-Pierre Thébault, ambassadeur de France en Australie, dont la presse à Canberra voit off Franck Mathevon. Il ajoute que restaurer des relations solides prendra du temps. Le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes, en banlieue parisienne, est connu pour ses épisodes de tension entre la police et une partie des habitants. Alors ce qui se passe en ce moment attire tout particulièrement l'attention. Une pétition de soutien à un commissaire circule dans la ville. Il a été écarté après une suite d'épisodes qui remonte à la mi-septembre. Un rodéo urbain, un jeune est interpellé, sa mère lui vient en aide, un policier l'asperge de gaz lacrymogène, une vidéo est tournée, elle circule, s'en suivent 5 nuits d'émeutes et le commissaire présente ses excuses lors d'une réunion publique. C'est en particulier un collectif de mamans baptisé Gilets Roses qui se mobilise pour lui, Théo Cobel.
Assise sur un banc public, une petite table de camping installée devant elle, ces gilets roses arrêtent chaque passant.
Bonjour madame, nous lançons une pétition pour le commissaire qui s'est excusé, vous vous rappelez?
Et après quelques minutes d'échange, Karama, une jeune maman qui promène ses enfants, accepte. Même si elle le reconnaît, elle n'aurait jamais pensé défendre un policier.
La vérité, non. Parce que avec tout ce qui se passe, c'est compliqué, surtout avec les jeunes. Il n'y a pas toujours de bons rapports, mais on espère que d'ici quelques années, ça va changer.
Et c'est justement ce changement qu'avait commencé à apporter ce commissaire. Il avait su créer un lien de confiance avec les habitants du quartier. Fatima Tassi est à la tête des Gilets Roses.
Nous voulons travailler avec lui parce qu'on a vu, c'était un homme de terrain, c'était un homme qui avait de l'humanisme. Il voulait vraiment travailler, il voulait faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'elle a levé cette barrière-là pour pouvoir qu'on puisse discuter. Parce que si on ne discute pas, on ne peut pas trouver des solutions ensemble.
Alors Fatimata l'assure, elle va se battre.
Sous la pluie, mouillée jusqu'à l'os, on ne lâchera pas en tout cas.
Et ces Gilets Roses comptent désormais se déployer dans les autres quartiers de Corbeil-Essonnes pour recueillir un maximum de signatures avec un espoir que la direction de la police nationale fasse revenir ce commissaire.
Dans le Nord, toute autre ambiance. Deux policiers percutés hier soir, l'un par une voiture à Roubaix, l'autre par un scooter à Villeneuve-d'Ascq, quartier du Pont-du-Bois. Tout cela lors d'interpellations mouvementées. À Villeneuve-d'Ascq, plus tard dans la soirée, 10 à 15 personnes ont lancé des mortiers d'artifice contre commissariat. Pas de blessés, une enquête est ouverte pour savoir s'il y a un lien entre les deux événements.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
La quatrième journée de Ligue des Champions se poursuit ce soir après la victoire de Lille hier à Séville. Le PSG se déplace à Leipzig sans Lionel Messi. Mais intéressons-nous à une autre équipe, celle de l'Ajax d'Amsterdam qui joue elle à Dortmund. Elle a dans son équipe la révélation de ce début de saison de Ligue des Champions, l'attaquant franco-ivoirien Sébastien Haller. Il a déjà marqué 6 buts depuis septembre, Thomas Coignac.
Depuis le début de la saison, tous les commentateurs européens ont dû s'habituer à prononcer son nom.
Haller, Haller, Haller. Pour essayer de trouver Haller.
6 buts en 3 matchs, dont un quadruplé contre le Sporting Portugal. Une réussite qui surprend Cédric, qui tient un compte Twitter consacré à l'Ajax.
On savait qu'il savait marquer des buts, parce qu'il marquait déjà beaucoup en championnat. Donc, bon, par contre, effectivement, déjà commencer par un quadruplé contre le champion du Portugal, ça, c'était pas prévu.
Haller vit les meilleurs moments d'une carrière débutée dans l'Essonne, où à 11 ans à peine, il est repéré par l'AJ Auxerre. Le directeur du centre de formation, Bernard David, se souvient.
À l'origine, il était à Ris-sur-Rangis. Et après, on l'a recruté. Voilà. Il a été meilleur buteur U17 ans chez nous, mieux que Djibril Cissé. Il a su gravir les étapes.
La prochaine étape, ce sera peut-être la Coupe du Monde au Qatar, mais pas sous le maillot bleu, puisqu'Haller a choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire, son sélectionneur Patrice Baumel.
Il a apporté une telle maturité, il fait du bien au groupe. C'est vraiment un élément important du groupe, de l'équipe. Je suis très heureux de l'avoir pour la suite.
Avant de penser au Qatar, Haller va déjà essayer de vivre un printemps européen et de se qualifier avec l'Ajax pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ça pourrait être le cas dès ce soir en cas de victoire à Dortmund.
Et le coup d'envoi est à 21h. Allez, revenons comme promis sur les prix Goncourt et Renaudot attribué il y a moins d'une heure. Qui a dit que la francophonie se portait mal? C'est une Belge qui remporte le Renaudot, mais oui, Amélie Nothomb pour premier 100 chez Albin Michel. Et le Goncourt revient à un écrivain sénégalais, un jeune homme de 31 ans qui en est déjà à son quatrième roman, Mohamed Mbougar Sarr, pour la plus secrète mémoire des hommes chez la maison d'édition indépendante Philippe Rey. Avant qu'il n'arrive chez Drouan, c'est à France Inter que Mohamed Mbougar Sarr a réservé sa première déclaration. C'est au micro d'Isabelle Pasquier qui lui a demandé s'il espérait que ce prix casse le ghetto dans lequel est enfermée la littérature africaine.
Je l'espère. Je pense en tout cas que c'est un formidable signal qui est envoyé
par l'Académie Goncourt. Et d'une certaine manière, je crois que c'est non seulement l'honneur de cette académie, mais aussi l'honneur de toute la littérature française. Je crois que c'est une vieille tradition d'accueil des écrivains qui viennent d'un ailleurs, et surtout d'un ailleurs francophone. Il faut que l'espace francophone devienne, je pense, plus démocratique et qu'on remarque plus, qu'on soutienne plus les écrivains qui viennent de cet espace-là, parce qu'il y en a vraiment de formidables qui auraient mérité tout autant ce prix et cette visibilité-là. Et je pense, j'espère que ce sera le cas et que ce ne relèvera plus d'une sorte d'exception, mais que ça deviendra presque normal dans l'avenir de voir des écrivains de l'espace francophone, noir, africain, ailleurs, mais aussi d'ailleurs, pouvoir prétendre à ce prix-là. J'en profite rapidement, simplement pour féliciter tous les autres candidats, donc Louis-Philippe D'Alembert, Serge Chalandon, Christine Angot, donc voilà.
Mohamed Mbougarsar avec Isabelle Pasquier, La plus secrète mémoire des hommes, édition Philippe Rey, prix Goncourt. Si vous voulez le lire en version papier, il faut peut-être se dépêcher. Nous sommes dans un contexte de pénurie de papier. Nous en venons à la sélection cinéma du mercredi. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Parmi les films les plus attendus cette semaine, Chloé Zhao chez Marvel, Les Éternels. Ah, c'est un film de super-héros avec son casting de stars, plutôt inattendu après Nomadland, ses grandes plaines de l'Ouest et ses comédiens non professionnels.
Mais oui, c'est vrai qu'on avait hâte de savoir comment la grande gagnante des derniers Oscars allait s'emparer de l'univers Marvel. Le résultat est forcément différent de ce qu'on a connu jusqu'ici avec la franchise. Pas complètement blockbuster, mais pas franchement non plus indé. Ce qui est intéressant et qui a beaucoup inspiré Chloé Zhao, c'est le profil de ces nouveaux super-héros, les Éternels, que seuls les fans de comics connaissaient jusqu'ici, soyons clairs. Ils sont 10, tous dotés de pouvoirs différents. Alors certains transforment les personnes ou les objets, d'autres les font disparaître. Angelina Jolie par exemple fabrique des armes juste en bougeant ses mains. Richard Madden lui lance des lasers avec ses yeux. Ajoutez pour compléter le casting Salma Hayek ou Gemma Chan et vous avez donc les Éternels. Présents sur Terre depuis 7000 ans, plus forts encore paraît-il que les Avengers, mais remplis de failles et surtout prêts à trahir leur cause, ce qui est assez inédit dans l'univers des super-héros. Alors on va trouver au niveau de la réalisation des plans souvent plus travaillés, une ambiance parfois contemplative, mais on est quand même loin de l'univers des premiers films de Chloé Zhao, les chansons que mes frères m'ont apprises ou alors The Rider. En tout cas, il y avait un défi à relever et plus que jamais, elle est la réalisatrice qui compte en ce moment à Hollywood.
Côté français au cinéma, le nouveau film de Xavier Beauvois qui s'appelle Albatros, Corinne.
Avec Jérémy Régnier dans le rôle d'un gendarme confronté à toutes sortes d'horreurs dans le cadre de son métier, des affaires d'inceste, de violences conjugales, qu'il essaie de conjurer du mieux qu'il peut en menant une petite vie paisible, entre autres avec sa famille et ses collègues. L'action se déroule à Étretat. Xavier Beauvois a filmé une vie et des paysages qu'il connaît bien, avec en toile de fond la misère en milieu rural et la chute d'un homme, Jérémy Régnier, qui va tuer par accident un agriculteur en pensant le sauver du suicide. Alors, c'est un film dur, c'est un film réaliste, un peu déséquilibré dans sa construction, mais le message est reçu 5 sur 5, stop à l'indifférence.
Allez, on a encore changé d'ambiance avec ce dernier film à l'énergie très rock qui s'appelle Burning Casablanca.
Voilà, c'est une belle rencontre entre deux âmes perdues dans le milieu underground de Casablanca. Une jeune prostituée, une rockstar déchue, héroïnomane criblée de dettes. Raja, Lia, Nisrin et Larsen Snake sortent de Sailor et Lula à la trajectoire pas très glam, mais qui ne rêve que de liberté. C'est un premier film à la réalisation nerveuse dans une ville de Casablanca, comme vous l'avez sans doute pas souvent vu au cinéma. La mise en scène est assez pop, avec une BO, vous l'entendez, et qui donne tout de suite le ton. Un film réalisé par l'un des survivants de l'attaque du Bataclan, Ismaël El Iraki, réalisateur marocain au look d'enfer, passé par la Fémis.
Merci Corinne Pellissier. Burning Casablanca, Albatros de Xavier Beauvois et Les Éternels, les super-héros vus par Chloé Zhao. Voici vos trois conseils de la semaine. Dans un instant, la météo, puis les invités du 13-14.
Vous avez remarqué, on ne parle plus de la grippe. Il est vrai qu'on a tous un peu autre chose en tête en ce moment. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Elle est toujours aussi imprévisible. Et toujours aussi dangereuse pour les plus fragiles. Plus de 65 ans, personnes atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes, protégez-vous, vaccinez-vous aussi contre la grippe. La vaccination contre la grippe peut se faire en même temps que la vaccination contre le Covid-19. Parlez-en à un professionnel de santé.
L'assurance maladie.
France Inter aime.
Tartuffe. Au Théâtre de la Criée à Marseille. Entre grande comédie et roman noir, Macha Makeyev peint un Tartuffe trouble et sensuel, entre secte et libertin. Un spectacle où désir, emprise, consentement déchirent une étrange famille bourgeoise. Un Molière ravageur. Tartuffe, jusqu'au 26 novembre, au Théâtre de la Criée à Marseille et du 1er au 19 décembre, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Un spectacle France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
C'est encore perturbé sur l'Est.
Oui, entre le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, l'après-midi restera très souvent gris et pluvieux puisqu'on retrouve la perturbation qui a balayé le pays durant la nuit. Sur l'ouest de la Corse, les pluies seront même localement soutenues et orageuses. On attend aussi de la neige en montagne au-dessus de 1000-1200 mètres d'altitude. Après-midi agité également entre les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Pays Basque avec des averses fréquentes et orageuses. Des plaines du sud-ouest aux Préalpes et au centre-Val de Loire, les averses seront plus isolées. Le ciel restera quand même bien chargé, notamment près du relief. Et puis le temps sera nettement plus lumineux autour du golfe du Lion et sur le nord-ouest jusqu'au Poitou-Charentes avec de belles éclaircies qui se développeront entre la Bretagne, la Normandie et le Pas-de-Calais. Les éclaircies seront quand même entrecoupées d'averses. Et puis l'après-midi est plutôt frais pour la saison. Les maximales sont comprises entre 10 degrés à Lille et Mulhouse, à 20 degrés à Bastia en passant par 12 degrés pour Paris, Rouen et Brest, 14 degrés à Bordeaux et à Lyon et 17 degrés à Nice.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvy.
C'est un des rares effets positifs du confinement l'année dernière. Il a permis de mesurer précisément le marché parallèle du tabac en France. Entre mars et mai de l'année dernière et même juin avec la fermeture des frontières, il était quasi impossible de s'approvisionner à l'étranger, dans les pays frontaliers ou sur le marché de contrebande. Les buralistes, en revanche, restaient ouverts. On a donc pu mesurer le chiffre d'affaires supplémentaire qu'ils réalisaient quand le marché parallèle est fermé. Une mission d'information parlementaire s'y est attelée. Résultat, ce marché parallèle représente 14 à 17% de la consommation de tabac, près de 30% dans les départements frontaliers. La perte de recettes fiscales pour l'État est estimée entre 2,5 et 3 milliards d'euros. On vous a déjà parlé de ce sujet dans le journal de 13h. Nous voulions aller plus loin aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour Philippe Coy.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Confédération des Buralistes. Et bonjour Corinne Cléostrate, pardon.
Bonjour.
Sous-directrice des affaires juridiques et de la lutte contre les fraudes à la direction des douanes. Et 01 45 24 7 7000 et France Inter, rubrique réagir pour vous, auditeurs, pour vos interventions. Philippe Coy, petite question d'abord, est-ce que l'activité est revenue à la normale depuis la fin du confinement? Est-ce que vous avez ou est-ce que vous avez gardé une partie des clients qui avaient quitté le réseau parallèle le temps du confinement?
Alors vous avez bien fait de parler du réseau légal et, du marché parallèle. Nous avons encore gardé quelques clients, mais malheureusement, dès la réouverture de ces frontières, ils ont repris leurs mauvaises habitudes, si je peux dire ainsi.
Bon, le confinement a permis de mettre en évidence donc ce que vous dites depuis des années, au fond, l'importance du marché parallèle en France. Est-ce qu'il y a une importance toute particulière de ce marché, plus grande que chez vos confrères d'autres pays ?
Oui, parce que bien évidemment, il n'aura échappé à personne que le prix du tabac est le plus élevé en France par rapport à l'Europe. Et il y avait l'Angleterre qui n'est plus dans l'Europe, donc forcément, les distorsions du marché, on les observe fortement sur le marché français avec cette évasion de clients, malheureusement, depuis plus de 15 ans maintenant.
Corinne Cléostrate, on parlera du marché de contrebande tout à l'heure. Sur les achats à l'étranger, à la frontière, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Eh bien, quand on revient d'étranger, on a droit à une cartouche. Voilà. Donc, ce nouveau seuil a été instauré au mois d'août 2020.
Quel que soit le pays.
Quel que soit le pays. Oui. Et donc, c'est un moyen aussi, bien sûr, pour nous, d'avoir un outil supplémentaire, finalement, pour évaluer ce marché parallèle et surtout un outil supplémentaire de lutte contre tous ces trafics qu'on qualifie de fourmis. Par opposition à des trafics plus importants de contrebande sur lesquels peut-être on aura l'occasion de revenir.
À partir de quel moment est-ce que vous, douane, vous intervenez ?
Alors nous on intervient sur tous les flux et sur tous les vecteurs et notre objectif c'est de vérifier que ce que vous avez sur vous, dans vos bagages eh bien respecte la réglementation telle qu'elle est prévue par le code des douanes, par le code général des impôts ou par d'autres réglementations encore. Donc nous on intervient et on regarde si finalement ces cigarettes elles sont destinées véritablement à votre consommation personnelle. Et c'est à vous de justifier bien sûr de cette consommation à caractère personnel. Nous on intervient en en fait sur, à tous les niveaux. On intervient aussi bien sur ces petits trafics du quotidien que sur des trafics de plus grande ampleur. Qui sont vraiment aux mains de filières qui aujourd'hui sont très bien structurées et organisées et qui interviennent à un niveau transnational.
Il y a une frontière pour les achats à la frontière, il y a une frontière en particulier qui pose problème et on parle de la contrebande dans 3 minutes.
Alors il y a des frontières, si on regarde la carte de l'Europe, on voit bien que la France elle est au carrefour des échanges commerciaux et qu'elle a des frontières avec plusieurs
beaucoup de pays.
Ouais. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une coopération avec nos collègues douaniers des autres pays qui fonctionnent très très bien et même de mieux en mieux, surtout depuis que nous avons lancé il y a 2 ans maintenant, un peu moins, ce nouveau plan d'action que notre ministre Olivier Dussopt a lancé à l'automne 2020
et qui
permet justement de renforcer encore cette coopération et qui a donné lieu, je tiens à le dire, qu'il y a des saisies de la douane française qui ont permis de démanteler des usines de fabrication clandestine dans des pays voisins comme les Pays-Bas ou la Belgique.
Alors, on va détailler cela. Harmonisation fiscale, Philippe Coy, est-ce que les négociations ont commencé, sachant que la France préside l'Union européenne au début de l'année prochaine? Est-ce que la clé est là, harmonisation fiscale, ou est-ce qu'il y a d'autres mesures pour limiter les achats à la frontière?
Je crois que pour lutter sur l'efficacité du marché parallèle, qu'il soit domestique ou du crime organisé, beaucoup d'outils seront nécessaires, notamment celui que vous venez d'évoquer, de la limitation du seuil du transport du tabac. C'est une décision courageuse que la France a pris en juillet 2020 et que nous soutenons dans le cadre de la présidence française pour que ça soit dans le droit communautaire demain installé dans tous les pays. Vous parlez de l'harmonisation, je dirais plutôt la réduction des écarts entre les États membres, parce que même si le jeune militant que j'étais il y a quelques années prônait sur la frontière espagnole l'harmonisation, je crois que celle-ci est idyllique dans un monde que l'on n'aurait pas à connaître.
Vous voulez dire que ça peut être qu'à la baisse des taxes et pas à la hausse des taxes dans d'autres pays.
Il faut réduire les écarts pour diminuer l'attractivité, et je crois que dans le cadre de la présidence française, c'est inscrit à l'agenda de relever le droit d'assise du minimum de perception pour que justement les autres pays relèvent leur seuil de perception fiscale pour réduire l'écart avec la France, à condition que la France ne continue pas à relever sa fiscalité, sinon on fera toujours une fuite en avant avec les prix français.
Même si les médecins vous diront que ça marche en termes de consommation.
Je vous dirais, regardez les volumes du confinement en mars 2020, je suis pas sûr que les 1,6 millions que certains voulaient voir arrêter de consommer du tabac étaient réels.
L'étude parlementaire établit donc ce marché parallèle à 14-17% de la consommation totale. Est-ce qu'on sait faire la part des achats à la frontière et celle de la contrebande vraiment stricto sensu?
Alors, cette distinction, elle est très très difficile à faire. D'autant plus que ensuite, ce qui compte pour nous, c'est de comprendre le fonctionnement de ce marché parallèle. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui que nous avons. Et c'est pour ça que ce plan d'action nous a aussi incité, conduit à modifier notre stratégie, qui est payante, je dois le dire, qui est payante parce que nous en discussions juste avant, on multiplie en ce moment les saisies. Et ce qui est encore plus important pour nous, c'est d'arriver à comprendre quelles sont ces filières.
Alors justement,
qui est derrière cette filière?
Comment fonctionnent ces filières? Qui fabrique les cigarettes? Qui les transporte? Quels sont les pays clés?
Eh bien, vous avez posé les bonnes questions parce qu'en fait, ces organisations, on va les appeler comme ça, de nature criminelle, de criminels, on peut les appeler aussi comme ça, en fait, fractionnent les différentes étapes de la fabrication, du stockage, de la distribution, du transport. Tout est parfaitement segmenté justement pour essayer d'échapper aux forces de l'ordre et d'échapper aux services d'enquête. Donc en fait, ce sont des organisations qui ont des moyens logistiques importants, des moyens financiers importants, qui recourent à une main-d'œuvre qu'ils exploitent, puisque ce sont des ouvriers alors souvent qualifiés, puisque ce sont des usines qu'on trouve pas très loin finalement de nos portes.
En Belgique, Pologne,
aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne. La France, pour l'instant, a échappé à ce phénomène. Mais on voit bien, et Europol, l'agence européenne nous le confirme dans ses études et analyses très régulières, c'est qu'en fait, ces dernières années, il y a eu des centaines de démantèlements d'usines. Depuis 2018, ce phénomène s'est accéléré.
Oui.
On compte vraiment par plus de 500 démantèlements, alors que ce soit des cigarettes d'ailleurs, ou que ce soit du tabac chicha, en moindre importance, mais tout de même. Et ces organisations donc utilisent une main-d'œuvre à bas coût, finalement, qui est soumise à des rythmes, à des cadencements vraiment très forts de production.
La main-d'œuvre, ce sont des migrants qui n'ont pas de travail, ce sont
ce sont des demandeurs d'asile, des étrangers en situation irrégulière qui n'ont, quand on les contrôle, ils n'ont pas de document d'identité. Souvent, l'identité qu'ils nous donnent n'est pas la bonne, d'ailleurs. On a pu le constater dans certaines affaires. Et ce sont des individus qui n'ont pas de domicile et qui donc acceptent différentes choses. Soit ils acceptent d'être enfermés dans des usines dont ils ne connaissent même pas la localisation. Ils travaillent vraiment dans l'obscurité, conditions de salubrité qui sont vraiment très dégradées, pour des salaires évidemment de très faible importance. Ou alors, ils sont recrutés pour faire les transports. Contre paiement d'une commission, évidemment, qui n'est jamais très élevée.
Est-ce que c'est les mêmes réseaux que les réseaux de stupéfiants?
Alors, il y a des organisations qui sont polycriminelles, c'est-à-dire qu'elles travaillent aussi bien sur le segment du trafic de stupéfiants que sur le trafic de cigarettes. Et dans les affaires qu'on a constatées, il est arrivé assez souvent d'ailleurs, que les individus que nous arrêtions étaient connus pour trafic de stupéfiants. Donc on voit quand même qu'il y a une porosité entre les différentes organisations.
Encore deux questions ponctuelles et puis on va au standard et on entend Philippe Coy. La provenance du tabac proprement dit, le tabac il vient d'où ?
Il peut venir de plusieurs pays. Okay. Il n'y a pas un pays en particulier.
Et en préparant cette émission, j'ai lu des chiffres, je voudrais vous les faire valider, entre guillemets, à propos d'un gros trafic intercepté à Nantes. À l'usine, la cartouche vaut 12,50 €, le grossiste l'achète 25, le revendeur à la sauvette 35, le particulier 50 €. On est dans ces ordres d'idées-là ?
On est dans ces ordres d'idées-là, oui.
Bon. Jean-Paul au standard. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Vous nous appelez de Lyon, merci d'être avec nous.
Ben, je vous remercie d'avoir pris mon appel.
Je vous écoute.
Alors, moi, ce que je voulais dire, j'ai été un petit peu surpris de voir qu'il n'y avait que entre 14 et 17%, parce que quand je sors de chez moi pour aller place Bellecour, qui est vraiment la grande place,
de Lyon, ouais.
Une place intermédiaire, une grande place de Lyon, qui est la place Gabriel-Péry, que les Lyonnais appellent place Dupont, et chaque fois, à toute heure du jour, je dirais pas de la nuit, mais enfin un peu à toute heure, je croise... trois ou quatre jeunes qui exhibent des paquets. Quand je dis que je les croise vraiment physiquement, ils sont sur mon parcours. Mmh. Si je regarde de l'autre côté du cours Gambetta, si je regarde de l'autre côté de la rue, il y en a peut-être au total une dizaine. Alors, ils exhibent des paquets. Certains marmonnent Marlboro, c'est à peine audible.
Ceux qui habitent le quartier Barbès à Paris voient parfaitement ce que vous voulez dire.
Et d'autres ont un mouvement... de quasi-jonglerie en mélangeant, comme on mélange un jeu de cartes.
Bref, ça se fait au grand jour, c'est ça que vous voulez nous dire, Jean-Paul.
Voilà.
Philippe...
Alors, je vois ça, je me dis que finalement, c'est tentant, quoi. Je connais pas les prix parce que j'ai pas acheté, mais si c'est moitié prix, je fumerais plus, je serais honnêtement tenté. Alors moi, je le sais et j'ai le sentiment... que personne d'autre a cette...
Alors, je voudrais qu'on entende Philippe Coy, le président de la Confédération des Buralistes, pour réagir à votre témoignage. Vous aussi, vous les voyez, vous, les buralistes, ceux qui vendent comme ça en contrebande?
Malheureusement, c'est un vrai constat alarmant, aujourd'hui, de voir ce tabac vendu dans la rue, partout, même devant nos établissements. Vous citez Lyon, j'y serai dimanche pour animer un débat, mais ici, à la Gare du Nord, Barbès, mais Toulouse, le marché Saint-Sernin, il y a des années que nous dénoncions ce phénomène, que le rapport d'Éric Burke et Ziv Kapark a mis au jour pour
elle-même, oui.
Sachant qu'il y a quelques années, nous étions face à un marché parallèle transfrontalier. On pouvait le dénoncer avec la Belgique, le Luxembourg, oui. L'Andorre, l'Espagne, bien évidemment, étant moi-même buraliste frontalier. Aujourd'hui, on a franchi un cap. Madame la directrice vient de le dire à l'instant, nous sommes face à de la criminalité organisée avec des produits spécifiquement fabriqués pour alimenter ce marché parallèle. Il y a un danger en termes de santé publique, de criminalité et d'ordre public.
Et Corinne Cléostrate, on ne peut rien faire contre ces vendeurs à la sauvette ?
Ah si, et nous agissons de plus en plus pour répondre à notre auditeur qui est sur Lyon. Eh bien en fait, depuis le début de l'année, que ce soit sur Lyon ou toutes les autres grandes agglomérations, nous avons mené, et pas seul d'ailleurs, en coopération avec des services du ministère de l'Intérieur, que ce soit la police, la gendarmerie, les polices municipales aussi, qui nous aident dans cette tâche, eh bien nous avons mené des centaines d'opérations pour justement... contrer ce phénomène de vente à la sauvette. Et si vous me permettez,
allez-y.
Par rapport à ces cigarettes, je tiens à dire que fumer, évidemment, est très
mauvais
dangereux,
pour la
mais
santé,
fumer
pardon,
ses cigarettes, évidemment, l'est encore plus, puisque on a fait des analyses, nos laboratoires ont fait des analyses, et ont découvert qu'il y avait finalement souvent très peu de tabac, mais beaucoup de métaux lourds, du ciment, du plâtre, mais aussi parfois des chiures de mouches, des excréments de rats. Donc voilà, donc ces cigarettes, voilà, elles coûtent peut-être effectivement moins cher que chez le buraliste,
d'ailleurs,
mais
si
elles sont vraiment très dangereuses.
En un mot, une poignée de
souvent, ceux qui organisent ces réseaux viennent eux-mêmes acheter leur propre consommation dans le réseau des buralistes parce qu'ils savent ce qu'ils
que
vendent.
C'est meilleur. Corinne Cléostrat, une dernière question, il nous reste vraiment une poignée de secondes. Le 1er novembre est entré en vigueur une mesure locale. Si l'État le demande, empêcher Waze de signaler les contrôles des automobilistes pour contrôle d'alcoolémie, contrôle stupéfiant, ça vous aide aussi dans la lutte contre la contrebande de cigarettes?
Toutes ces mesures, évidemment, sont de nature, évidemment, à renforcer l'efficacité de nos dispositifs de contrôle.
Merci à tous les deux d'être venus dans les studios de France Inter, 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bruno Dubic, bonjour.
C'est le cadre de la Bourgogne qu'Emmanuel Macron a choisi pour dire au revoir à Angela Merkel cet après-midi et ce soir. Page d'histoire de la Bourgogne avec vous dans le vif.
Ben oui, quand elle pensait possible son indépendance.
Et nous verrons cela dans 10 minutes. Avant, il y aura le feuilleton dans un tiers-lieu de la région bordelaise. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le prix Goncourt vient donc d'être attribué au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour la plus secrète mémoire des hommes. Il succède à Hervé Le Tellier, sacré l'an dernier pour l'Anomalie, très gros succès de librairie. Et d'Hervé Le Tellier, on vient aussi de rééditer L'herbier des villes, chose sauvée du néant. C'est un petit livre haïku, photo dans lequel il évoque 41 objets du quotidien trouvés sur le trottoir. Hervé Le Tellier est à votre micro, le temps d'une chanson.
Il est vraiment savoureux, son herbier des villes. Une bouteille d'eau écrasée dans un caniveau. Les crochets de fixation d'un meuble Ikea tombés de leur carton sous une porte cochère. Un briquet, une paire de lunettes, un masque FFP2. Ces bribes de nos vies racontent notre époque, comme le faisait aussi l'homme qu'il a souhaité nous faire écouter. Auteur, compositeur, interprète, poète, romancier, peintre canadien, j'ai nommé
Leonard Cohen.
Mort il y a tout juste 5 ans, le 7 novembre 2016, chanteur très très important pour Hervé Le Tellier.
Oui, c'est un chanteur très important, d'abord parce qu'il a accompagné ma jeunesse, ensuite parce que avec les années qui ont passé, j'ai compris à quel point c'était un extraordinaire chanteur, un poète également, un romancier. Moi j'avais lu les poèmes de Leonard Cohen quand j'avais 12 ou 13 ans, qui venaient juste d'être publiés en 10-18. Et j'avais trouvé ça merveilleux de voir à quel point cet auteur était un auteur universel. Il composait des poésies qui étaient finalement assez bibliques en termes de thématiques. J'avais l'impression de lire l'Ecclésiaste. Donc il appartient à cet univers de gens qui sont capables de composer des chansons avec des mots extrêmement simples et de raconter toute une histoire. Dylan aussi, hein. Il y en a d'autres. Mais chez Cohen, il y a en plus un sens incroyable de la mélodie, de l'orchestration, qui est une réussite totale.
I love you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow, like a sleepy golden star. Yes, many love before us, I know that we are not new. City and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow, hey, that's no way to say goodbye.
Écrite en 1966, qu'a choisi Hervé Le Tellier, Hey, That's No Way to Say Goodbye.
Une chanson tout d'abord interprétée par Jody Collins, puis par l'auteur lui-même, sur son premier album, sorti en 67, Songs of Leonard Cohen.
Dans cet album, il y a à la fois Marianne, So Long Marianne, il y a Suzanne, Winter Lady, enfin, toute une série de chansons extrêmement nostalgiques. Mais c'est celle-là en particulier que j'ai retenue parce que elle appartient à mon adolescence et que c'est une chanson que j'ai pu passer en boucle. J'avais 15 ans, 16 ans et elle est complètement associée à une femme que j'aimais à l'époque, jeune fille que j'aimais à l'époque. Donc c'est un de mes premiers amours et j'arrive pas à me défaire de cette nostalgie-là.
Donc c'est ça le premier souvenir que convoque cette chanson.
Ouais, c'est ça. Et puis les paroles elles-mêmes sont d'une simplicité dingue et on rêve lorsqu'on écrit une chanson d'arriver à cette pureté de description d'un lieu, de description d'un rapport à une femme. Sleepy Golden Stone, pour parler des cheveux, c'est quand même formidable. Donc, c'est la chanson absolue pour moi. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head on the pillow, like a sleepy golden storm. It's many love before us, I know that we are not new. Je crois que c'est un de mes premiers albums achetés avec mon argent de poche. D'ailleurs, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. J'ai retrouvé toute une série de vinyles. Et c'est vrai que retrouver cette discothèque ancienne avec à chaque fois marqué sur chacun des disques HLT pour pas qu'on me les pique dans les surbooms, c'est un petit bonheur de mémoire, quoi. Hey, that's no way to say goodbye.
Hey, that's no way to say goodbye, Leonard Cohen. C'était donc Frédéric, le choix de l'écrivain HLT, Hervé Letellier.
On vient de reparaître L'herbier des villes, choses sauvées du néant. C'est publié chez Textuel.
Le feuilleton Une semaine dans leur vie au tiers-lieu de Sainte-Foy-la-Grande, commune de 2500 habitants en Gironde. On a vu lors des premiers épisodes que cet endroit qui rassemble entrepreneurs, associations, habitants a permis de redynamiser le village. Il abrite ceux qui veulent lancer leur activité. C'est aussi un lieu d'accompagnement social. C'est le troisième épisode de notre feuilleton. Reportage Yann Gallic.
Ok, les impôts, attestation 4, mais c'est parfait, il y a tout. Je m'appelle Edwige, je suis assistante administrative à Cœur de Bastide.
Donc vous êtes salariée ?
Eh oui, je suis salariée, ça va faire 4 ans. Et juste avant, j'étais en contrat aidé de l'État, le contrat PEC. Heureusement que vous ne filmez pas du coup.
Les dossiers s'entassent sur votre bureau.
C'est un peu ça, ouais.
C'est un peu le pôle administratif du tiers-lieu. Vous êtes chargé d'accueillir les gens qui ont besoin d'une aide administrative.
Oui, une aide administrative ou tout simplement besoin de discuter, besoin de parler d'un problème. Il y a vraiment toute situation confondue. Une personne qui a besoin de faire un transfert d'argent, mais ne sait pas comment ça se passe, on va l'accompagner à la banque, on va l'accompagner à la poste. L'autre jour, on a une personne qui est venue qui veut quitter sa maison parce que son mari est là-bas. D'autres dames où c'est son enfant est victime d'harcèlement scolaire, donc elle a besoin de discuter, de rencontrer quelqu'un qui pourrait lui indiquer les numéros utiles, là où elle doit aller, et enfin on fait vraiment énormément de choses. Et après évidemment il y a tout ce qui est démarche administrative, donc démarche administrative papier et après numérique.
Qui sont les gens qui viennent vous voir, qui viennent vous demander de l'aide?
On va avoir donc des personnes donc, de pays étrangers qui, eux, ont vraiment beaucoup de soucis au niveau de la langue. Il y a aussi simplement des retraités. Évidemment, maintenant, tous les dossiers se font, les impôts, la CAF, les retraites. Tout se fait maintenant par numérique, donc ils sont complètement dépassés. Ils viennent ici faire leur papier aussi. J'ai une dame qui est toute seule, son mari est à l'hôpital, elle s'ennuie, donc elle vient là. Il y a de tout.
Donc vous faites plus que de l'administratif?
Oui. Ah oui, beaucoup de liens sociaux. On va s'arrêter, on va boire un café, on va rigoler, on va prendre le bébé de la dame parce qu'on la connaît bien et que, tiens, vas-y, garde-le, je reviens. C'est ce qui va peut-être nous différencier d'une administration pour le coup. C'est le lien social. Ah, 14h30, s'il vous plaît, parce que j'ai quelqu'un à 14h. Ça vous dérange pas? Parce qu'on en a pour un moment.
Vous attendez pour faire des papiers aussi?
Oui, pour faire des papiers avec Edwige pour une carte grise. Je viens souvent ici, ils sont super gentils.
Et vous habitez ici à Sainte-Foy?
Oui, je suis en France depuis un an.
Vous venez de quel pays?
Je suis d'origine tunisienne, mais j'étais en Italie. J'ai vécu en Italie pendant 12 ans et après on a décidé de se transférer ici.
Et vous avez besoin d'aide pour les papiers administratifs?
Oui, surtout que c'est nouveau pour moi, donc un an ici en France... Les démarches administratives sont aussi trop. Ils ont accompagné mon mari pour ouvrir son garage de mécanique. Ils font beaucoup de choses pour les personnes. Ils aident vraiment. C'est un lieu essentiel et exceptionnel. Parce que sincèrement, je n'ai pas vu ça en Italie. Cœur de Bastide, c'est vraiment le cœur de Sainte-Foy-la-Grande.
La
Patricia Jutio, il y a beaucoup d'accompagnement social au sein de votre tiers-lieu. C'est un vrai besoin dans ce territoire.
On est dans le croissant de pauvreté en Aquitaine. On a des gens, beaucoup de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 40% de la population, on a 30% de la population migrante. On a des personnes, beaucoup de personnes âgées, avec très peu de revenus, beaucoup de gens au chômage. Et on a des gens très très riches. Donc c'est vraiment cette différence-là qui est assez étonnante. Et notre travail, c'est vraiment de faire rencontrer ces gens entre eux.
Le feuilleton, réalisation Lucie Lemarchand, demain le quatrième épisode.
France Inter, le 13-14.
C'est donc la Bourgogne qu'a choisi Emmanuel Macron pour dire tchuss à Angela Merkel. Les honneurs sont rendus à la chancelière aux hospices de Beaune et au château du Clos-Vougeot. Le patrimoine Elvin, donc, pour une dirigeante réputée aimer les plaisirs de la table, chef d'un État fédéral. La Bourgogne. La revue Histoire le montre bien. Jean Lebrun prouve aussi que la France, pour sa part, n'a pas toujours été un État centralisé. Titre du dernier numéro de l'Histoire, les princes du Bourgogne, une puissance fracassée en 1477.
Et oui, la date de la défaite de Charles le Téméraire. Mais souvenons-nous de l'odeur alléchante des agapes, je ne parle pas des hospices de Beaune dîner ce soir, qu'au XVe siècle offraient les ducs de Bourgogne. Rappelons au président et à la chancelière le menu de la bombance fameuse de 1464, un pâté abritait 28 personnages vifs, un château au sommet duquel apparaissait la fée Mélusine faisait tomber de ses flancs de l'eau d'orange, et comme c'était un festin à entremets, régulièrement des intermèdes chantés et dansés étaient produits. L'hôte, cette année-là, c'était le père de Charles le Téméraire, Philippe, qui était surnommé le Bon, qu'on aurait pu aussi appeler le Jouisseur. Vaisselle d'or, d'argent, échansonnier, panetier, etc. Philippe menait grand train. 160 peintres ont travaillé pour lui, dont Van Eyck et Van der Weyden. Mais il s'était aussi doté d'une chambre des comptes qui étalonnait ses impôts sur ses dépenses. Et son administration était importante, des juges qui ne voulaient pas être sous la tutelle du Parlement de Paris, un conseil ducal à la tête duquel se tenait un chancelier, Rollin, pendant 30 ans. Rollin qui a créé les Hospices de Beaune, où se rendent donc ce soir Emmanuel Macron et Angela Merkel.
À l'époque de Philippe le Bon, la Bourgogne allait bien au-delà de Beaune-et-Dijon.
Oui, elle avait débordé de son assiette, si je puis dire. Le festin de 1464, par exemple, a été donné à Lille. Le duché s'étendait jusqu'à la Flandre, en passant par la Picardie, jusqu'au Brabant et au Hainaut, en passant par le Luxembourg. Il lui manquait juste la continuité territoriale, ce à quoi le Téméraire voudra remédier en conquérant la Lorraine. À la grande inquiétude du roi de France Louis XI, mais aussi à l'est du Saint-Empire romain germanique qui, en 1475, finira par appeler ses sujets à combattre ce duc qui se sentait pousser des couronnes. La chancelière Merkel sait ce qu'était la Lotharingie, cet état chimère, avait existé après Charlemagne et pouvait revenir dans son lit entre Mâcon et Amsterdam. Les Allemands, si on peut employer le mot à l'époque, n'aimaient pas ça.
Et Louis XI, qui avait juré d'agrandir son domaine, regardait aussi la Bourgogne avec inquiétude.
Oui, au XVe, d'autres duchés ne demandaient qu'à accéder à l'indépendance. Celui du duc Jean II de Bourbon, qui avait son hôtel et sa cour à Moulins. Celui de François II de Montfort, duc de Bretagne, qui agrandissait son château à Nantes. Le journal de Dijon, assez inoffensif d'ailleurs, s'appelle Le Bien Public. Et bien le président et le premier ministre, qui font profession de bien aimer la presse quotidienne régionale, devraient se souvenir que dans les années 1460, une ligue du bien public s'est constituée autour des ducs de Bourgogne, de Bourbon et de Bretagne. Louis XI n'a pas pu empêcher les troupes bretonnes et bourguignonnes de converger non loin de Paris, qu'il a dû fuir. Et les conditions que lui imposèrent les grands féodaux ont été humiliantes. Et même en 1468, il a dû accepter une entrevue sous contrôle à Péronne, où Charles le Téméraire se montra un interlocuteur beaucoup plus bruyant qu'Angela Merkel aujourd'hui.
Il fallut deux générations, quatre souverains en France pour réussir l'intégration au royaume des Trois-Duchés qui semblait presque parvenu à l'indépendance.
Le numéro de l'Histoire fait l'inventaire des erreurs que commit le Téméraire, qui n'aurait pas dû perdre parce qu'il était le plus fort. En 1477, il trouve la mort à Nancy, dont il voulait faire sa capitale. François II de Bretagne sera lui battu à Saint-Aubin-du-Cormier. 1488, la mort d'Anne de Bretagne, 1514, la trahison du connétable duc de Bourbon, 1523, Et la confiscation de ses biens signifieront la fin des duchés de Bourbon et de Bretagne. Néanmoins, les Bourbonnais continuent à se sentir uniques et les Bretons bien davantage encore. Et les Bourguignons vont faire bon accueil aujourd'hui à Angela Merkel parce qu'elle a été chancelière d'un État fédéral, ce que n'a pas voulu être la France.
Et le numéro de novembre de l'histoire s'appelle « La Bourgogne, puissance fracassée ». Est-ce que vous voulez, Jean Lebrun, le programme de la Terre au carré de Mathieu Vidard après
Bien sûr.
Inégalité environnementale, où sont les gens du voyage? C'est une rediffusion de la Terre au carré juste après les infos de 14h.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Nathalie Nouveau, à Fougères, en Ille-et-Vilaine, nous dit pourquoi.
Mon mari et moi, on avait besoin de refaire nos lunettes. J'ai appelé notre opticien. Il m'a proposé de prendre un rendez-vous. Sur les portants, vous mettez les montures. Il est bien marqué de ne pas toucher aux montures, mais plutôt de demander, parce qu'après, il désinfecte à chaque fois les montures. Quand on met sa carte vitale, tout est désinfecté. Rester une heure ou une heure et demie pour choisir une paire, pour enfin faire tout ce qu'il faut, ça m'a pas fait peur. C'est bien, c'est rassurant.
Thierry Barbeau, l'opticien Optique 2000 de Madame Nouveau, à Fougères.
Pour nous, l'accueil et le service apporté à nos clients sont nos priorités. Donc, il était évident de tout mettre en œuvre pour que nos clients soient accueillis en toute sécurité. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous nous occupons de tout.
Alors, Madame Nouveau, contente d'Optique 2000?
Complètement. Et en plus, il gère tout pour moi.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Il est bientôt 14h, c'est Philippe Duclos qui tenait le chronomètre aujourd'hui, c'est Fabrice Desmas qui était à la console technique. Qu'il soit vivement remercié et salué car nous arrivons pile à 14h.